Bonjour à tous, nous sommes le mardi 30 avril, je suis Marion, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour débriefer de l'actualité tech, et tout de suite, c'est l'émission Le Mug. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la patate ce matin, j'espère que vous êtes en forme, que vous commencez la journée du bon pied. Et si c'est pas le cas, on va essayer de corriger ça pour la faire retourner dans la bonne voie, à la voie de l'information, de la bonne humeur, entre potes dans la chatroom. Comment ça va ce matin dans la chatroom? Alors je regarde un petit peu qui nous a rejoint déjà. Salut Samuel. Oui, et qui rappelle qu'il n'y aura pas de live du 10 mai au 24 juin. Merci, tu veilles au grain, Samuel. Un grand, grand merci à toi. Salut David Le Pandafou. Salut Pax Magellanis. Salut Fred. Salut Olek. Salut Grolb. Salut Holmes 92. Salut Andy 76. Salut Ol Grimoire. Joli comme pseudo. Salut Alex B 49. Salut Samuel Durand, chat prod. C'est marrant ça, Samuel Durand, chat prod. Waouh, quel pseudo. Salut Yves, salut Damstein, salut Cefatou, salut Fissorem, salut Zoldril, salut Polaire75, salut MMG7F, salut Poppy21000, salut Lord1984, qui était banni d'ailleurs. Désolé. Salut Blobina Bottle, c'est trop mignon. Salut Noirvent, salut The Gabby King, salut Melmox, salut Zach39, salut Pierre-Rich, un grand merci à toi pour ton abonnement. 41e mois d'abonnement, j'en perds mes mots, tellement je suis impressionnée par la durée de ton soutien. Un grand, grand merci à toi. Franchement, je rigole, mais sérieusement, un grand, grand merci à vous qui nous soutenez via des abonnements. Donc, merci beaucoup à toi, Pierre-Rich. Voilà. Et à qui j'ai pas dit bonjour encore? Salut Dr Ictus, salut Erwan Kenobi, salut Kero5, salut à tous. Voilà. Bonjour les bannis, ouais. Salut. Dommage pour vous, mais salut. Salut Laetitia Chlopin. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on a quelques petits articles. Ça se bouscule pas au portillon ce matin, mais c'est pas grave. On prendra plus de temps pour les news qu'on a. On a quand même des petites news sympas. Évidemment, on va quand même pas mal parler et commencer à parler du fameux événement du 7 mai prochain qui arrive à grands pas vu qu'on est quand même le 30 avril. Mine de rien, c'est déjà la semaine prochaine. Voilà. Apple a été particulièrement pénible quand même avec les dates de ses keynotes, hein, faut le dire. Voilà, je passe ça là quand même. Il nous le fait juste avant qu'on parte et au moment où on avait prévu de pas du tout bosser, mais c'est pas grave. On est sur le pont quand même. Et donc, on va parler de ce fameux événement de la semaine prochaine et de quoi il en retourne. Alors, on a quand même quelques indices. Hein. On sait que ça va parler de l'iPad, du Pencil, ça c'est sûr, puisqu'on a vu des illustrations, etc., que je vous montrais qui teasent l'événement, qui communique autour de l'événement. Et puis après, on pourra un petit peu parler de certaines rumeurs qui ont été partagées, notamment par certains analystes qui sont assez connus dans l'univers Apple, notamment Mark Gurman, que vous connaissez bien, on en parle souvent, et qui généralement est assez bon hein, à parler de justement quelles seraient les prochaines annonces d'Apple, où les rumeurs généralement sont assez intéressantes. Donc on parlera de rumeurs de Mark Gurman concernant l'événement de la semaine prochaine. Mais pas que concernant Apple, on parlera aussi d'une petite pub qui a vu le jour récemment et qui vante les mérites de la solidité des iPhones Apple. Vous avez vu le titre de l'émission ce matin, Apple ne veut plus de coque sur les iPhones. Et ben voilà, c'était en rapport avec cette publicité qu'ils ont publiée récemment. Et ça m'intéressera d'avoir votre avis dans la chatroom sur oui ou non. Est-ce que la solidité des iPhones vous ferait abandonner une coque et est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous prenez une coque? Je dis ça, je pose là comme ça, parce que moi, pour le coup, j'ai essayé de ne pas avoir de coque sur mon iPhone, et finalement, je suis retournée à une coque, pas forcément sur un sujet de solidité. Voilà, on continuera en prenant des petites nouvelles de Threads. Threads, vous savez, le nouveau réseau social de Meta, Meta société de Mark Zuckerberg, qui comporte notamment Facebook, WhatsApp, Instagram, et qui avait lancé Threads, du coup, pour venir concurrencer X, Twitter. Voilà, on est toujours avec ces deux noms un peu bizarres, voilà. Et on prend des petites nouvelles parce que tout simplement, durant la communication finalement des chiffres du premier trimestre 2024, on a eu quelques informations assez intéressantes concernant Threads et notamment le nombre d'utilisateurs actifs par jour. Donc ça, c'est intéressant parce que ça me donne une idée un petit peu de où se situe finalement Threads ou la tendance de Threads par rapport à X et Twitter. Enfin, X Twitter, parce que ce n'est pas X et Twitter, mais c'est X Twitter ensemble. Et donc, du coup, bah, la question, c'est est-ce que finalement, Threads peut être un concurrent crédible de X ? Est-ce qu'ils sont loin, finalement, des chiffres d'utilisation de X ? C'est vraiment des questions légitimes qu'on peut se poser, alors que ça fait à peu près 9 mois maintenant que le réseau social a été lancé. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et puis, on reviendra sur une news très française ce matin avec l'État français qui propose d'acheter certaines activités, notamment celles qui sont les plus sensibles pour la souveraineté du pays, de la société Atos. Atos qui est dans la panade, on va dire comme ça. Hein. Le groupe informatique est en galère. Voilà. Et donc, il a quand même un endettement de près de 5 milliards d'euros. Et donc, du coup, monsieur le ministre de l'économie n'entend pas le laisser s'effondrer comme ça. Et donc, a proposé, a déposé une lettre d'intention en vue d'acquérir certaines activités d'Atos, principalement toutes les activités souveraines d'Atos. Donc, on reviendra sur qu'est-ce que ça veut dire finalement, ces activités souveraines d'Atos, qu'est-ce qu'ils font Atos. Parce que moi, je connaissais deux noms, mais. C'est pas forcément une société tech dont on parle tous les jours, donc c'est pas mal aussi de se rafraîchir un petit peu la mémoire et pourquoi c'est un enjeu assez potentiellement stratégique pour la France et pour l'État. Voilà. Donc on reviendra un petit peu sur ce qui se passe et peut-être que certains d'entre vous sont plus au fait que moi, donc je vous inviterai dans la chatroom évidemment à me corriger si je dis des bêtises. Et puis de toute façon, on a l'article du Monde quand même qui court de manière fouiller ce que je vais vous dire aujourd'hui, donc pour ceux qui sont un peu plus curieux. Pardon. Et puis on continuera avec un article assez intéressant que j'ai trouvé de l'ADN qui analyse une tendance particulière qui touche le podcast à l'heure actuelle, les podcasts, qui est quand même un média à l'origine purement audio, a tendance à se déporter ou à faire de plus en plus d'usage finalement de podcasts filmés ou de podcasts disponibles également en vidéo, notamment qui vont apparaître sous certains formats, donc formats découpés en des petits créneaux de 2-3 minutes sur TikTok ou carrément le podcast en entier disponible en visionnage complet sur YouTube. Et ça, c'est une tendance qui s'accélère. On a certains chiffres que je vous communiquerai tout à l'heure. Et donc, ça pose quelques questions, notamment sur justement la stratégie du podcast. Est-ce que c'est vraiment finalement une stratégie intéressante alors qu'on est dans une ère où le podcast a finalement galère un petit peu à monétiser, à trouver un modèle de business viable encore en 2024, alors qu'on s'était dit qu'au moment où Spotify finalement dévoiler le tapis rouge au podcast en rachetant des groupements de podcasts, en fermant la porte à certains artistes musicaux en faveur de podcasteurs controversés tels que Joe Rogan sur sa plateforme, c'était une ère qui changeait. Est-ce que ça a finalement révolutionné le monde du podcast? Pas forcément, et donc justement on reviendra sur ce sujet. Et on terminera avec YouTube. Finalement, se porte pas mal du tout, avec quand même des chiffres de croissance et notamment des revenus publicitaires qui ont grimpé au premier trimestre de l'année de 21% par rapport à l'année précédente, ce qui est quand même assez remarquable pour une société de la taille de YouTube. Et on reviendra sur pourquoi il y a eu ce gros progrès et qu'est-ce qu'ils envisagent de faire pour justement continuer à augmenter et avoir cette croissance de revenus publicitaires sur la plateforme. Pas sûr que ça vous plaise, mais on y reviendra tout à l'heure ensemble. Voilà pour les news du jour. J'espère que le programme vous plaît et je vous propose de commencer tout de suite avec le premier article ce matin. Et on va commencer à parler de l'événement Apple qui va se dérouler donc la semaine prochaine, le 7 mai 2024. Et ça sera donc le premier appareil Apple avec une puce M4. En tout cas, ça, c'est une rumeur qu'on nous a communiquée. Plus sérieusement, c'est Mark Gurman, le journaliste de Bloomberg, qui, justement, nous informe qu'il pourrait y avoir un bouleversement important dans le calendrier Apple en termes de sortie de puces. Et pourquoi ? Eh bien, finalement, le coupable serait potentiellement l'intelligence artificielle. Voilà, donc, a priori, au-delà de l'intelligence artificielle, lors de cet événement du 7 mai, on aurait notamment des nouveaux iPad haut de gamme qui devraient être annoncés, potentiellement iPad Pro, iPad Air. Le premier devrait abandonner la technologie mini LED pour un écran OLED. Le second pourrait être décliné en une version XXL pour la première fois. Et ces deux tablettes devraient être accompagnées d'un nouvel Apple Pencil. Ça, il y a peu de doute, car il y a carrément une illustration qui montre. Je vous montre ici un petit peu une illustration sur la page officielle d'Apple qui montre justement un pencil dans la main avec la créativité qui fuse du pencil. Alors là, bon, je n'ai pas réussi à le trouver. Excusez-moi, mais il y avait carrément sur cette illustration une animation super sympa, super punchy avec cette illustration. Voilà, je n'ai pas réussi à la trouver, mais bon, l'illustration est déjà très très sympa. Ici, sur la page officielle de l'événement, ou en tout cas la page d'accueil qui présente et rappelle l'événement du 7 mai prochain. Est-ce que si je fais en savoir plus ? Ah ben voilà. J'ai pas cherché beaucoup. Je vous disais que j'avais pas trouvé l'animation. Il suffisait que j'aille sur la page de l'événement, quoi. Voilà. Donc vous voyez la petite animation que je trouve super sympa. Bref. Je suis pas là pour faire de la pub Apple, hein, je vous rassure. Mais il faut reconnaître que quand c'est sympa, c'est sympa. Voilà donc pour la petite animation. Je regarde, hop, et je vais revenir sur l'autre page parce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer après. Voilà, et donc du coup, donc on parlera donc d'un nouveau pencil avec des retours haptiques, donc ça c'est assez cool, ce qui permettrait de rendre l'écriture et le dessin encore plus agréable sur tablette. On sait que déjà Apple est vraiment pas mal en termes de pencil et de moi quand je vois des gens qui aiment dessiner et générer des graphiques, etc. sur une tablette, c'est vrai que l'iPad se situe pas mal en haut de la liste, quoi. Mais néanmoins, hein, par rapport à toutes ces rumeurs d'annonces, c'est pas tout. On aurait donc Mark Gurman qui annonce qu'il y a une forte chance que la puce du nouvel iPad Pro soit non pas la M3, mais la M4. Et donc, ça deviendrait comme ça le premier produit Apple à utiliser la puce la plus récente de la marque, alors que jusqu'ici, elle avait été dotée de la puce M2, quoi. Et donc, du coup, l'iPad Pro pourrait être présenté par Apple comme le premier appareil optimisé pour l'IA générative. Et donc, pour prouver que sa nouvelle tablette est capable d'exécuter comme son concurrent de ChatGPT localement, c'est-à-dire sans Internet, la marque aurait besoin donc d'un NPU, d'un Neural Engine, le coprocesseur de ces puces qui est chargé des tâches neuronales ici, d'avoir une puce un peu plus puissante puisque la M3 n'est pas optimale. Et d'ailleurs, on a quelques chiffres là-dessus. Hein, le Neural Engine de la puce Apple M3 peut exécuter jusqu'à 18 milliards d'opérations par seconde, alors que quand on compare finalement avec celui de l'Apple A17 Pro, alors ça, c'est la puce qui est disponible sur l'iPhone 15 Pro, cette puce-là peut en exécuter 35 milliards. 35 milliards d'opérations par seconde. Et donc, du coup, voilà, ça veut dire que le meilleur Neural Engine du marché aujourd'hui est réservé à l'iPhone. Et donc, du coup, ça donnerait aux iPad et aux Mac, ils seraient défavorisés par rapport à l'iPhone. Et donc, c'est ce qui aurait peut-être motivé Apple à accélérer finalement sur une mise à jour de leur puce avec une version M4 qui serait spécifiquement améliorée sur le fameux Neural Engine, le NPU, uniquement avec potentiellement l'intention de peut-être rien changer pour le CPU et le GPU, mais uniquement de se concentrer sur le NPU en tant que tel. Voilà, l'iPad Pro serait peut-être capable du coup de générer du contenu beaucoup plus rapidement sans épuiser ses ressources. La logique voudrait aussi que les puces A18 et A18 Pro attendues avec les iPhone 16 bénéficient du même Neural Engine. Ça serait étonnant que ce soit le contraire. S'il y a une amélioration d'un côté, l'iPhone reste quand même le fer de lance des produits et des gammes de produits d'Apple, quoi. Et donc, du coup, on peut se demander, mais à quoi ça va servir finalement sur l'iPad ? Pourquoi utiliser et doter l'iPad à un NPU très, très puissant ? Est-ce qu'on va avoir un espèce d'assistant général qui va pouvoir répondre à la ChatGPT à n'importe quelle demande plus ou moins bien, à n'importe quelle question. Ben ça, c'est une vraie question. Moi, je miserais plutôt sur quelque chose qui est lié à la créativité. L'iPad, c'est quand même la tablette qui est le plus axée et l'outil d'Apple qui est quand même le plus axé sur la créativité accessible pour tous. Vous voyez un petit peu les illustrations ici qui varient entre les... Voilà, j'essaie de vous les montrer différemment, où c'est une pomme qui est à chaque fois représentée, mais avec différents styles graphiques et remplissages différents. Là, voilà, vous avez eu un aperçu un petit peu de toutes les illustrations qui étaient disponibles. Et donc ça, finalement, ce qu'on pourrait réfléchir, c'est que Apple soit ait fait des partenariats avec certaines applications spécifiques de dessin sur iPad, soit ait doté le Pencil avec l'iPad d'une capacité, en effet, de génération, de remplissage avec des styles graphiques bien, bien spécifiques. Que vous pourriez définir. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'on le voit notamment avec Midjourney, avec les outils de génération de Photoshop aussi, qui sont quand même très étonnants, très puissants. Pour encore l'avoir utilisé hier, c'est quand même assez bluffant. Et donc, ça serait pas, ça serait un cas d'usage assez... pertinent finalement de pouvoir démontrer les prouesses sur iPad de la création et d'assister finalement les créateurs dans leur production avec en utilisant finalement cette puce Neural Engine spécifiée à ce type d'usage. À voir si ça va être lié à ça, mais ce que je trouve plus intéressant que de se poser la question « Ah, une puce plus puissante !» c'est de se poser la question de à quoi elle peut bien servir sur l'iPad. En tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et donc, du coup, je prêterai attention assez particulière, finalement, à la keynote Apple la semaine prochaine. Je ne sais pas si ça vous motive, ça vous interpelle, mais moi, ça m'interpelle. Et franchement, c'est bluffant, les outils Adobe Photoshop... vraiment et des choses un peu des tâches un peu bêtes honnêtement ça a permis avec l'intelligence artificielle de pouvoir les exécuter simplement, notamment du détourage d'image avec notamment j'avais une photo avec une jeune femme avec des cheveux crépus et genre je crois que les cheveux crépus c'est l'exemple type du cauchemar de cheveux à détourer parce que c'est bouclé avec plein de transparence, de finesse, etc. Et donc, en termes de détourage, c'est quand même quelque chose de assez complexe à détourer. Alors, bien sûr, on avait des outils déjà assez intelligents avec la baguette magique, etc., etc., ou le lasso et tout. Mais là, juste, vous avez juste à dire, détoure-moi le personnage de la photo. Et c'est pas parfait. Mais en fait, vous pouvez ensuite corriger là où c'est pas parfait. Et ça vous fait quand même gagner un temps de malade. Pareil, j'ai testé pour le fun parce que j'utilisais une photo test, donc avec le watermark sur le pull de la jeune femme. Et bon, je m'en foutais parce que pour l'instant, je faisais juste un test, je n'avais pas besoin d'acheter la photo. Mais par curiosité, j'ai testé de sélectionner les lettres du pull et d'utiliser les outils de génération de Photoshop. Ça m'a enlevé les lettres du pull. J'ai un pull normal. Et donc, j'étais là, ouais, quand même. C'est quand même assez impressionnant. Donc là, c'est des exemples très, très basiques. Je n'ai fait qu'effleurer les capacités, mais même j'avais testé aussi de pouvoir étendre une image avec, il me manquait des fois de la matière sur un sol ou sur un ciel, etc. Et j'avais besoin d'une image légèrement plus large en termes d'angle. Et donc, du coup, ça me permettait de changer un petit peu le cadrage avec quelque chose qui fonctionnait plutôt bien. Voilà, donc ça, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'était des tests très basiques faits avec Adobe Photoshop qui intègrent eux aussi des outils génératif, et donc ça serait pas étonnant d'avoir des partenariats qui existent entre Apple et ce type d'application pour pouvoir faire tourner les compétences ou en tout cas les fonctionnalités génératives directement en local avec cette puce, parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est de pouvoir faire tourner en local et de pas être dépendant forcément d'une connexion internet ici. Voilà, donc on verra ce que ça donne. J'ai pas plus d'informations sur le sujet. En tout cas, dans l'article de Numérama, ce qui est assez sympa aussi, c'est que vous pouvez voir un petit tableau comparatif sur les performances des différentes puces et jusqu'où elles peuvent, à quelle vitesse elles peuvent générer par seconde le calcul des avec le Neural Engine. Et donc, vous pouvez voir les performances ici. Et donc ça, c'est assez pratique pour pouvoir comparer pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, on aura la réponse. Du coup, rendez-vous le 7 mai prochain pour savoir tout ce qui se passe concernant les iPads, le Pencil et cette fameuse nouvelle puce ou non. Voilà, on continue. Et on continue avec Apple qui fait encore parler de lui. Et cette fois-ci, c'est avec une nouvelle pub. Alors, le truc un petit peu classique qui se passe quand on achète un nouvel iPhone, c'est le premier réflexe, c'est quelle coque je vais pouvoir acheter pour protéger mon iPhone. Bah voilà, moi j'ai une petite coque officielle. Encore une fois, je ne fais pas de pub pour Apple, hein, je m'en fous. Mais c'est juste parce que j'aime bien la texture. C'est pas la première que j'achète et donc du coup, bah, déjà, la force de l'habitude, j'aimais bien la texture un peu rugueuse, silicone des coques Apple, parce que ça permet que l'iPhone ne glisse pas, hein, tout simplement. En termes de qualité, bon, je trouve que ça peut être mieux parce que j'ai des bouts de coque qui s'en vont. Mais quand même, elle tient un peu mieux, j'ai l'impression, que la précédente que j'avais. Mais voilà. Et puis, j'avais pas trop envie de me prendre trop la tête sur quelle coque choisir, même si elles sont très, très chères. Oh, je suis d'accord sur le prix. Mais voilà, le truc classique quand on achète un nouvel iPhone, c'est de chercher la coque qui va habiller son iPhone et qu'est-ce qu'il va endosser. Apple vous dit que pourtant, bah, c'est pas forcément nécessaire. Alors qu'eux-mêmes vendent des coques, notamment les fine woven dont on a parlé la semaine dernière, mais pas que, donc les coques silicone comme moi j'ai. Et on a Apple, mais d'autres constructeurs. On a plein d'autres constructeurs qui font plein de coques, certaines aussi bien que les autres. Enfin voilà, j'ai perdu mon expression. Et donc vous avez voilà un large éventail de choix en ce qui concerne le choix de coque pour votre iPhone. Donc ça voilà, chacun rivalise d'ingéniosité sur des coques résistantes qui vous permettent d'accrocher finalement votre iPhone, soit de le porter en espèce de ligasse autour du cou, soit de le clipser, soit de pouvoir le tenir avec les deux doigts qui cliquent et qui se glissent derrière le dos de l'iPhone pour pouvoir plus facilement le tenir, etc. Donc, il y a plein mal de choses assez ingénieuses. Et pourtant, selon Apple, bah, il n'est pas nécessaire de protéger son iPhone. Et déjà en 2022, à l'époque, il nous dévoilait une publicité qui visait à démontrer la résistance des iPhones à l'époque grâce au fameux Ceramic Shield. Et de même, il est quand même assez rare de voir les dirigeants d'Apple exhiber un iPhone qui a une coque de protection. Et donc, du coup, d'où le slogan « Relax, it's iPhone ». Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout récemment, ils ont dévoilé une pub, voilà, dans la même veine, qui montre un petit peu la démonstration de la résistance de l'iPhone. Et donc, vous voyez une jeune femme en Inde et dans un espèce de course assez dynamique, on va dire ça comme ça, avec l'iPhone qui va voyager et se taper contre différentes surfaces, certaines plus molles que d'autres, et quand même des moments assez phares. Voilà, je vous montre pas tout parce que je voudrais pas quand même qu'on se fasse ban, mais voilà, avec des rebonds assez dramatiques de l'iPhone, mais il en sort indemne et la jeune femme est sereine avec un sourire et d'ailleurs un regard assez chouette. J'ai trouvé enfin l'actrice est très sympa, très chouette dans son jeu, dans la pub. Et voilà, qui nous démontre encore une nouvelle fois la solidité de l'iPhone. Mais finalement, la question que moi j'ai envie de vous poser dans la chatroom, est-ce que c'est vraiment un problème de solidité qui vous fait uniquement, qui vous fait acheter une coque pour votre iPhone? Et là, je vais pas faire de sondage parce que c'est un peu plus ouvert. Mais je vais vous laisser un petit peu commenter. Du coup, bah, Quentin nous dit, c'est marrant, le mien est tombé une fois par terre, ça l'a brisé. T'avais lequel? MMG7F nous dit pas que. Donc, c'est pas que la solidité. Donc, quoi d'autre, MMG7F? Qu'est-ce qui, toi, en plus de la protection, te ferait acheter une coque d'iPhone? Donc pour rassurer, donc toujours cette notion de protection en effet. Donc pour rassurer parce que c'est quand même des achats conséquents, je suis d'accord avec vous. La coque me permet de ne pas le confondre avec celui de ma fille. Ah, parce que vous avez pris peut-être la même couleur. C'est vrai qu'il y a moins de choix de couleurs en termes de pur iPhone que de coques disponibles sur le marché aussi. Donc ça peut être en effet une raison. Merci Anaïs. Docteur Rictus nous dit pour la prise en main, c'est-à-dire pour la prise en main. Pourquoi tu trouves que c'est plus agréable à prendre en main avec une coque que juste le téléphone? Confort et prix du tel, donc là c'est aussi protection. Pour la couleur et le fun, nous dit Fissorem, ouais, donc là on rejoint un peu Anaïs avec la capacité de différencier, de customiser un peu. Docteur Rictus nous dit ça glisse moins. Oui. Pour moi, c'est un des enjeux. C'est pas le seul, mais c'est un des enjeux. C'est-à-dire que j'avais commencé par avoir mon iPhone 15 là, ici, sans coque, parce que bah, je m'étais dit c'est plus léger, c'est plus fin et tout. Et en plus, moi, je venais d'un iPhone mini, et donc du coup, le fait d'avoir changé de taille, parce que le mini était plus petit et je préférais la taille du mini, bah, je m'étais dit en plus, si je rajoute une coque sur un iPhone déjà plus grand que mon iPhone mini, bon, ça commençait un peu à me gonfler. Dans la pratique, on s'y habitue, mais j'avoue que je préférais le mini en termes de taille. Bon, voilà, j'ai des petites mains, etc. Mais j'ai pris une coque. Une des raisons, c'est parce que mon iPhone n'arrêtait pas de glisser dès que je le posais de manière un peu nonchalante sur une surface. Eh ben, il faisait un vol plané, que ce soit une table, mon bureau, le canapé et tout. Genre, il glissait à l'autre bout du. Et je me suis fait quelques petites frayeurs. Avec ça. Donc, il avait une surface glissante un peu trop optimale de glisse, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, je rejoins beaucoup Dr. Rictus sur l'enjeu, ça glisse moins. Et Cefatou, d'ailleurs, a également mentionné, ça glisse sans coque. Exactement. Alors, dithyrambique aussi nous mentionne qu'il prend toujours une coque qui puisse bien protéger son iPhone, dont les optiques de l'appareil photo avec un petit clapet. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc il y a un enjeu aussi de vouloir, encore une fois, protection, mais protéger les optiques. Hygiène plus facile à désinfecter de temps en temps. D'accord. Pour les éventuelles griffes, donc la protection aussi. Oleg qui troll Jérôme. Moi, je mets une coque à cause de Peak Design. Non, toi, tu mets un iPhone dans ta coque Peak Design. Nuance. C'est très très bien, très très bien trouvé, Olek. Donc voilà, la plupart d'entre vous, pardon, c'est de le garder en meilleur état possible. Laurie aussi a mentionné l'aspect glissant. Et la coque officielle Apple qui est la moins glissante que j'ai trouvée. Ouais, je suis assez d'accord. J'avais testé une autre coque et je l'ai renvoyée parce qu'en fait, je la trouvais. Elle était soi-disant silicone et en fait, elle faisait très plastique dur. Et du coup, elle n'enlevait pas du tout l'aspect très glissant que j'avais avec mon iPhone sans coque. Donc, c'est pour ça que j'avais pris aussi Apple. Alors voilà, Julie nous dit voilà des fonctionnalités de coque. Par exemple, moi, j'ai une sorte de clip où je peux le mettre en mode support. Tout à fait. Ou bien le tenir dans le métro. Ouais, on ne sait jamais, tu as bien raison. Oui, Gary Gréau. Alors, il y a certains secteurs qui sont très spécifiques, notamment dans le milieu du bâtiment. Clairement, dans le milieu du bâtiment, toutes les personnes que j'ai croisées qui bossaient dans les travaux, etc., ont des coques ultra résistantes et ça se comprend complètement. Franchement, surtout, enfin, des fois, vous manipulez des produits un peu, voilà, dangereux, etc., abrasifs et tout. Donc, ouais. Je suis en train d'imaginer le papier de verre frotté contre l'écran. Ah, remarque, ça sera un test de solidité. Ouais, voilà. Alors, Atelier Cardinal aussi mentionne des fonctionnalités comme un anneau derrière pour mieux le tenir. Tout à fait. L'iPhone à bord rond était une patinoire en main. J'étais content du retour aux angles secs. Alors, c'est vrai que le nouveau design permet d'avoir quand même peut-être une meilleure prise en main. Il est moins rond, il glisse moins. Quand même, il est moi je le trouve moins agréable à tenir en main parce que du coup il a des angles plus marqués, alors que l'autre épousait mieux la pomme, mais du coup il glissait encore plus. C'est toujours un équilibre à trouver quoi. Mais il n'y a personne qui mentionne ce que j'ai en tête, je regarde. Hein. La prise en main, ça empêche les rayures. Les optiques supportent bien les rayures, moi ça me dérange pas. Ok, bon à savoir. Je regarde les iPhone mini. Ah ouais, moi aussi. Il y a le magnétisme MagSafe est plus fort avec la coque. D'accord. Ça, je savais pas. Je savais pas, je savais pas. Ok. Et donc du coup. Bluster nous dit je trouve trop léger sans coque. Très très bon, très très bon. Trop léger, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, bah, du coup, je vais vous dire pourquoi moi, il y a un autre élément qui m'agaçait, qui m'énervait à chaque fois que je posais mon iPhone sans coque sur mon bureau. C'était il était bancal. Il était bancal. Est-ce que j'ai des tocs? Est-ce que je suis obnubilée par ça? Mais les fameuses optiques là, ces espèces de trucs énormes ici là que vous voyez. Mais quand vous n'avez pas de coque, ça fait ça quand vous le posez là, parce que c'est énorme ce truc là sur un bureau. Ça m'insupportait. Donc à chaque fois que je le posais, d'abord je le posais pas particulièrement de manière douce. Donc, ça faisait un bruit assez important. Après, il était bancal. Donc, c'est vraiment très, très pénible. Et en plus, ensuite, il glisse. Donc, c'est franchement même pas pour la solidité que moi, j'ai pris une coque. J'ai eu la chance jusqu'ici. J'ai eu la chance. Jusqu'ici, j'ai toujours utilisé une coque pour protéger mon iPhone. Donc, c'est pas que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai toujours utilisé une coque. Bon, j'ai quand même eu de la chance parce que quand je le faisais tomber, il tombait pas forcément pile poil sur l'écran, etc. J'ai jamais mis, par contre, d'espèce de petit autocollant sur l'écran pour protéger. Ça, j'ai jamais fait. Ça m'a pas. Enfin, j'ai eu quelques rayures, mais jamais de rien de bien méchant. Mais c'est vrai que pour l'iPhone 15, je ne voulais pas prendre de coque parce que je le trouvais déjà très gros, très grand. Et donc, je ne voulais pas augmenter son poids et sa taille avec une coque. Mais en fait, à l'usage, c'était assez pénible parce que bah, voilà, il était toujours bancal. Ça faisait quand même pas mal de bruit quand on le posait. Et il glissait, parce que c'est vrai que ben, voilà, c'est un truc que j'ai tous les jours. Je ne suis pas en train de mettre 5 minutes pour faire un atterrissage contrôlé sur un bureau, quoi. Voilà, donc et donc du coup il partait un peu à l'autre bout. Donc voilà, donc moi c'est un peu tout ça qui m'a poussé finalement à acheter une coque parce que le design de l'iPhone fait que ses optiques sortent et c'est insupportable. Voilà, donc Je ne sais pas si. Alors, est-ce que si les optiques ne sortaient pas, j'aurais quand même pris une coque? Je pense que oui, à cause de la glissade. Je ne sais pas. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Je ne suis pas capable de vous dire. Mais bon, voilà. Tu peux toujours mettre des gants en silicone. Ouais. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Aussi, quand les gens n'ont pas de coque sur l'iPhone, ça fait signe extérieur de richesse, pardon, dans le sens, j'ai de l'argent, donc je n'ai pas peur de cramer mon iPhone, je peux m'en racheter un de suite. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Je l'avais pas vu comme ça. Parce que bon, quand même, après de 900 euros, enfin, l'iPhone, ça fait mal quand même, hein. Enfin bon, oui, en fonction de ton niveau de vie, tu peux, pour certains... on n'a pas les mêmes considérations, mais mais ouais, moi je le voyais peut-être pas comme ça. Je m'étais dit, comme j'avais te jamais testé et que finalement je mettais une coque, mais j'avais jamais cassé finalement d'écran. Je m'étais dit, en fait, je pars du principe que je vais le casser, alors qu'en fait concrètement je l'ai jamais cassé l'écran. Et donc je m'étais dit, bon, finalement je suis peut-être trop précautionneuse. Et qui n'en a pas tant besoin que ça. Bah, pas fan des coques transparentes, personnellement. J'en ai pas trouvé une qui rendait très bien. Et en même temps, c'est aussi pénible d'en commander 36 000 pour les tester. Il y a aussi le confort des coques Apple, où tu vas dans la boutique, tu peux les essayer. Tu vois exactement le rendu, etc., quoi. Elles sont souvent très épaisses, les autres. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'agace. Donc voilà, bref. Donc finalement, la pub d'Apple, moi, fait plouf. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout pour une raison finalement de solidité, même si la plupart d'entre vous, quand même, hein, dans la chatroom, ont mentionné la protection, parce que c'est quand même un investissement important, éviter les rayures, être rassuré, etc. Donc tout ça, c'est lié en effet à la sécurité, à la protection de l'iPhone, et c'est une raison tout à fait valable. Mais finalement, moi personnellement, c'était même pas à cause de ça. Ça ne suffirait pas. Et donc c'est là où la pub ne résonne pas du tout avec moi. C'est finalement plus pour un confort d'utilisation au quotidien ou d'arrêter les glissades interminables quand je le pose quelque part. Ces espèces de capteurs photo qui sortent sans aucune honte du dos de l'iPhone. C'est marrant comment tout le monde s'habitue à ça alors que c'est insupportable au quotidien. Et que finalement, les coques sont là pour corriger ce problème de design industriel. Bref. Voilà. Ah, il est loin le temps où ces capteurs étaient bien intégrés. Bref, voilà, je termine mon laïus sur les capteurs photo et la glissade de l'iPhone. Mais voilà, en tout cas, la nouvelle pub à Apple montre encore une fois que Apple essaye de montrer que l'iPhone est suffisamment résistant. Est-ce que ça suffira à convaincre les gens? Pas sûr. Et dans tous les cas, le business d'Apple, c'est aussi de vendre des accessoires, hein, et notamment leur coque. Voilà. On continue, et cette fois-ci, on va prendre des nouvelles du côté de Threads. Threads, pour rappel quand même, parce que bon, ça vaut la peine de rappeler, c'est le fameux réseau social qui a maintenant à peu près 9 mois de Meta. Meta, c'est la société de Mark Zuckerberg qui regroupe donc Threads, mais pas que, Facebook, Instagram, WhatsApp, parmi tant d'autres, Quest, le Metaverse, etc. Et donc du coup, Meta a très logiquement voulu rentrer en compétition avec Twitter X en sortant leur propre alternative de réseau social en temps réel avec Threads. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, lors de la publication des résultats de la société pour le premier trimestre 2024, on a eu quelques informations qui ont été dévoilées sur les performances de Threads et sa croissance. Et notamment, on avait une information qu'ils avaient 130 millions d'utilisateurs actifs mensuels en février dernier, et maintenant, ils en ont plus de 150 millions. Donc voilà, ça grimpe quand même avec un rythme assez soutenu, hein, et tout ça, c'est lié notamment à plusieurs initiatives que Meta a entreprise pour Threads. C'est notamment en mars, la société avait autorisé les utilisateurs de plus de 18 ans aux États-Unis de pouvoir connecter leur compte Threads aux faits divers. Et qu'est-ce que ça permettait? Ben, tout simplement, ça permettait de poster de diffuser leurs posts sur un réseau social, sur d'autres serveurs et d'autres réseaux sociaux. Et donc, du coup, ben, en postant une fois, ça diffuse sur différentes plateformes. Donc ça, ben, du coup, on peut revoir finalement la définition d'utilisateur actif. Parce que est-ce que utilisateur actif, c'est ceux qui postent nativement sur un réseau social, ou est-ce que c'est finalement un nouveau poste sur un réseau social? Jusqu'ici, c'était un nouveau poste sur un réseau social, et pas que, hein, y a d'autres définitions d'activité, c'est faire des likes, suivre, échanger et faire une action qui interagit vraiment avec le contenu. Mais là, finalement, on peut se dire que de faciliter de poster automatiquement sur d'autres plateformes, eh ben, ça va augmenter et booster le fait qu'il y ait de plus en plus d'utilisateurs actifs sur Threads. Mais ce n'est pas que, ce n'est pas la seule initiative que Meta avait entreprise. La société avait également sorti une API à une destination de développeurs. Enfin, il prévoit en tout cas de sortir une API pour les développeurs en juin prochain, qui va leur permettre de développer des expériences autour du réseau social. Alors, pour l'instant, on a encore un peu d'informations sur cette API, et notamment est-ce que ça va permettre de développer des clients tierces qui vous permettraient de pas forcément utiliser l'application Threads en elle-même, mais des clients tierces pour utiliser Threads. Ben, ça à voir, on n'a pas encore la réponse, mais on le saura plutôt en juin. La semaine dernière, on avait aussi Meta là, qui avait lancé un chatbot sur ses autres services, cette fois-ci, pas sur Threads, mais sur Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram. Alors, pourquoi pas sur Threads? Probablement parce qu'il n'y a pas encore de fonctionnalité native de DM, puisque Threads se repose sur la fonctionnalité de DM d'Instagram, plutôt. Et donc, du coup, pourquoi on parle de Threads aujourd'hui? Eh ben, pas que pour ces informations et la croissance, mais plus spécifiquement, c'est que mercredi dernier, Threads a dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui permet maintenant aux utilisateurs d'archiver automatiquement leurs posts après un temps défini. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal de limiter finalement notre empreinte Internet, notre empreinte web, et de pouvoir donner un temps défini à nos posts en ligne. À voir si ça va être vraiment utilisé, mais je trouve ça assez intéressant. Les utilisateurs peuvent donc archiver, mais également désarchiver des posts individuels pour les rendre de nouveau publics. Donc à voir. Autre information qui a été, qui est encore plus importante, et pour moi qui est l'information à retenir des chiffres qui ont été publiés lors du rapport du premier trimestre 2024 pour Threads, qui n'ont pas été publiés lors du rapport, mais qui viennent de la société Aptopia, qui est une société d'analyse de performance d'application, et qui a été rapportée par Business Insider, c'est qu'aujourd'hui, Threads a plus d'utilisateurs actifs journaliers aux États-Unis que X. Et donc pour moi, ça c'est l'information à retenir finalement de l'article de TechCrunch que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le flipboard de Naotech, c'est que finalement l'information qui est très très intéressante et qui donne un indice de où se situe finalement Threads par rapport à X, c'est qu'en termes d'utilisateurs par jour actifs, Threads a dépassé X sur le sol américain, aux États-Unis. Et donc ça, c'est très, très intéressant. Ça doit faire crisser des dents Elon Musk, c'est certain, mais je trouve ça très intéressant. Moi-même, j'y croyais pas trop, pour être honnête. Et honnêtement, j'utilise de moins en moins Threads, parce qu'en fait, j'ai un peu l'impression d'avoir retrouvé exactement les mêmes problèmes que j'avais sur X. C'est quand même... Bon, d'abord des posts, je sais pas pourquoi ils sont dans ma timeline, de gens que je suis pas sur des sujets qui m'intéressent pas, et encore beaucoup de polémiques. On retrouve quand même pas mal de posts populaires qui appellent juste à la réaction un peu violente, et donc tout le réseau social était tout de suite, tu lis deux posts et t'es outragé, quoi. Et en fait, c'est fatigant. Genre, j'ai pas envie de m'épuiser et d'épuiser mon énergie sur des posts de gens que je connais même pas, qui disent des choses comme ça sur les réseaux sociaux, quoi. C'est différent d'engager avec des personnes qui sont proches de toi, que tu connais, dans des discussions constructives, quoi. Donc, du coup, voilà, finalement, Threads, voilà, je m'en suis un peu éloignée aussi. Et d'ailleurs, Paladin Chilex dit ça, pourtant c'est les mêmes polémiques et les mêmes ressorts, ouais. Donc étonnant finalement que ça ait les mêmes, que ça ait dépassé peut-être X. Bah oui et non, je pense que X, Twitter, a fait quand même une campagne de séduction très, très droite, voilà, en réintégrant certaines personnalités sur la plateforme, en ayant des propos quand même assez extrêmes, aussi en diffusant de la désinformation. Sur la plateforme, en rendant encore plus difficile de vérifier quand une information est une bonne information ou de la désinformation, etc. En rendant plus difficile de voir les sources et d'avoir accès aux sources. Et donc, du coup, là-dessus, Threads est quand même peut-être plus équilibré. J'ai pas fait un comparatif, hein, attention. J'ai pas fait un comparatif très, très clair là-dessus. Mais il y a eu tellement de mauvaise presse finalement autour de X, que potentiellement ça a quand même endommagé la réputation. Enfin, je serais pas étonnée. Et donc du coup qu'une certaine frange de la population s'est reportée sur Threads. Et en effet, MMG7F, tu le soulignes très justement, le problème de Threads, c'est Meta. Et en effet, derrière l'un, c'est Elon Musk, et derrière l'autre, c'est Meta, avec tout ce que ça comporte. Voilà. Et il faut le savoir. Yves nous dit par exemple que Threads, il trouve quand même que c'est plus apaisé. Voilà. Donc c'est que pour l'instant, c'est quand même pas au même niveau. Avec les community notes, les fake news sont largement débunkables sur Twitter. C'est super efficace, je trouve. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Donc, à voir. En tout cas, je trouve que ça donne un signal assez intéressant ici en termes d'évolution de la plateforme et de la croissance, qu'on aime ou non. Je trouve ça quand même assez intéressant de voir d'un point de vue de compétition et de business que Threads, qui arrivait tellement loin, tellement tard finalement après X et Twitter, que finalement ils ont réussi quand même à se faire une place. Sur le marché américain. J'ai pas les chiffres pour l'Europe, mais en tout cas sur le marché américain, eh ben maintenant ils ont plus d'utilisateurs actifs par jour. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Je vous propose de passer à la news suivante. Et cette fois-ci, on va parler d'une news très française ce matin. Avec un article de Le Monde que je vous encourage à lire. Alors attention, il est disponible uniquement aux abonnés, désolé. Mais je voulais un article qui soit assez complet sur ce qui s'est passé, parce que sinon on trouvait des choses assez succinctes finalement dans les articles disponibles gratuitement sur Internet, où j'ai pas réussi à trouver d'articles qui allaient un peu plus dans le fond. Donc moi je voulais en savoir un peu plus sur cette histoire de Atos, société française où l'État se mêle un petit peu des problèmes de l'endettement de la société, et voir concrètement pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Alors, pour vous faire un petit peu, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, Atos, donc c'est une société française. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que l'État propose d'acheter des activités les plus sensibles, donc des supercalculateurs aux technologies militaires. Alors, on sait que Atos est dans une situation très complexe. D'ici au mois d'août, ils doivent trouver une solution au propos de son endettement, un endettement quand même de 5 milliards d'euros. Et là, le ministre de l'économie, hein, Bruno Le Maire, a annoncé dimanche 28 avril avoir déposé ce week-end, par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'État, une lettre d'intention en vue d'acquérir toutes les activités souveraines d'Atos. Le groupe Atos, ici, accueille avec satisfaction cette lettre d'intention qui protégerait les impératifs stratégiques de souveraineté de l'État français. Donc ça, c'est la réaction d'Atos qui a suivi l'annonce. Donc la réaction d'Atos a été publiée hier, lundi 29 avril. Et donc du coup, l'intention d'achat, qu'est-ce qu'elle vise? C'est quoi ces secteurs d'activité qui mettraient, qui garantiraient ou mettraient en danger la souveraineté de l'État français ici? Eh bien, plus précisément, ça vise trois activités. Les ordinateurs de haute performance, qu'on appelle les supercalculateurs, qui servent notamment à la simulation nucléaire. Les systèmes critiques, ce qu'on appelle Mission Critical Systems, qui sont principalement utilisés par les armées, comme le C4I, je ne sais pas si c'est 41 ou 4I, C4I, Command Control Communication Computers and Intelligence, donc c'est C4I, oui, qui fournit à la chaîne de commandement une carte du champ de bataille en temps réel, ou, autre exemple, comme le module de sécurisation des communications du Rafale, ça c'est quand même problématique, ou, et enfin, en troisième secteur d'activité, les produits de cybersécurité, tout ce qui est cryptologie, contrôle d'accès, etc. Donc tout de suite, quand on réfléchit un petit peu à ces secteurs d'activité, on se dit « Ah ouais, c'est chaud quand même !» On n'a pas forcément envie que le module de sécurisation des communications du Rafale tombe dans n'importe quelle main, quoi. Voilà, bon, bref. Et donc, ces trois activités représentent un chiffre d'affaires de l'ordre de 900 millions d'euros. Mais ce qui est intéressant, c'est de le mettre en relation, en perspective avec les revenus totaux d'Atos. Ça représente un peu moins de 10% des revenus totaux d'Atos. Ces trois activités emploient aujourd'hui 4000 salariés, dont la très grande majorité en France. Voilà. Et donc, si la lettre d'intention aujourd'hui de l'État français n'est pas engageante, elle va permettre en tout cas de poursuivre l'étude du dossier et d'affiner le sujet de la valorisation. Voilà, en tout cas, c'est ce que dit Bercy, qui pense pouvoir formuler une proposition plus ferme d'ici à début juin. Et donc, du coup, le ministère a continué. Hein, ils ne veulent pas s'engager seuls dans cet achat. Et en fait, leur stratégie ici, avec la lettre d'intention et cette communication grand public autour des enjeux d'Atos, de ces secteurs d'activité, c'est plutôt de convaincre finalement plusieurs industriels français de l'accompagner ici. Et notamment, on a Bruno Le Maire, ou en tout cas le cabinet de Bruno Le Maire qui s'est exprimé. L'État n'a pas vocation à diriger seul de telles activités et il serait logique qu'elles soient gérées par des industriels dans le cadre d'un partenariat actionnarial. On va voir qui est volontaire pour monter à bord. Et donc finalement, c'est ça l'enjeu ici de cette communication de l'État français qui essaie de se mêler un peu du futur d'Atos et de spécifiquement ses secteurs d'activité. Et donc, avec qui potentiellement l'État pourrait négocier et Atos pourrait travailler pour avoir ce partenariat? Excusez-moi. Avec qui donc d'autres industriels pourraient se joindre à ce partenariat? Bah là, on n'a pas d'informations officielles aujourd'hui de la part de Bercy. Mais en tout cas, on nous a rappelé que certains industriels s'étaient déjà penchés sur le sujet. Alors, c'est notamment le cas de Thales. Thales, on le connaît, hein, c'est quand même un groupe de défense qui collabore avec Atos déjà dans certains projets militaires et civils, dont l'État déjà détient 26% du capital et qui a toujours refusé de faire une offre sur la totalité des activités du groupe Atos, du groupe informatique, mais par contre qui aurait intérêt à récupérer ses activités les plus critiques. Alors, pas de commentaire de la part de Thales, on n'a pas d'informations pour l'instant. Autre potentiel partenaire, ce serait le fabricant du Rafale, Dassault Aviation. Là aussi, pas de communication officielle de leur part, mais ça ne détonnerait pas complètement dans un tel dispositif souverain qu'ils reprennent le contrôle sur certaines activités. Notamment, on avait vu le dispositif de communication, de sécurisation des communications du Rafale. On pourrait peut-être extrapoler du côté de Airbus. Mais finalement, le fabricant Airbus, le fabricant d'avions, avait déjà essayé de négocier à deux reprises, en 2023 et début 2024, l'acquisition des activités militaires et cyber d'Atos, mais sans parvenir à un accord à l'époque. Il y avait d'ailleurs eu un petit couac ici, l'insistance politique de Bruno Le Maire en faveur de la solution d'Airbus pour venir au secours de Atos, avait un peu braqué l'État allemand. L'État allemand, pour rappel, est actionnaire à parité de l'avionneur. Et donc Berlin n'appréciait pas que l'industriel soit utilisé pour venir à la rescousse d'un groupe privé français. Voilà. Donc du coup, la négociation n'avait pas abouti. Et du coup, il y a peu de chances quand même qu'elle revienne, qu'elle soit reconsidérée. C'est quand même... Enfin voilà, elle a été de nouveau ouverte début 2024. Elle n'a pas abouti. Voilà. Donc on n'a pas plus d'informations que ça. On ne sait pas si Bercy vise la majorité du capital de ses trois activités sensibles. Voilà. On va voir. On va voir. Ils indiquent simplement que le schéma pourrait ressembler à ceux de Naval Group, le fabricant de sous-marins nucléaires qui est détenu aujourd'hui à 62,25% par l'État et 35% par Thales, ou du spécialiste de chaufferie nucléaire de la Marine nationale de Technicatom. Donc, capital est réparti entre l'Agence des participations de l'État à 50,32%, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à 20,32%, Naval Group à 20,32% ou EDF. Voilà, vous voyez qu'il y a plein d'acteurs ici. Bref, pas plus d'informations. Et qu'est-ce qu'il en est aussi des autres activités finalement du groupe Atos ? Une fois les activités appelées souveraines mises en sécurité, est-ce que ça veut dire que les autres activités d'Atos vont être laissées tomber ? Qu'est-ce qui va advenir de ça ? Eh ben, on n'a pas non plus trop d'informations, à savoir quand même que Atos gère notamment les prestations pour certaines administrations comme Mon Espace Santé pour l'assurance maladie, entre autres. Ou des entreprises publiques comme EDF. Voilà. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, c'est en cours. Hein, ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Mais on n'a pas plus d'informations que ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le temps presse. Malheureusement, la direction d'Atos a quand même annoncé hier que finalement, le groupe aurait besoin de plus d'argent que prévu pour se remettre à flot en raison d'un très mauvais début d'année. Elle chiffre désormais à 1,1 milliard d'euros les liquidités nécessaires pour faire face, rien que pour faire face aux années 2024 et 2025, contre 600 millions précédemment annoncés. Donc ça fait encore un investissement supplémentaire. Voilà. Donc à voir ce qui va se passer et quelle solution va être trouvée pour le groupe français. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous encourage à aller lire l'article du Monde et je regarde un petit peu dans les commentaires. Oula, j'ai fait un faux clic. S'il y a des choses que j'ai ratées ou des petites précisions que vous avez apportées dans la chatroom que je pourrais partager. J'en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui nous soutiennent, notamment All Grimor, Wagou, Nyarki, Manimax, Mingus52, Blabla sur Azerty et Localize. Un grand, grand merci à vous tous ce matin de nous soutenir et de soutenir le mug avec les abonnements Prime. Un grand merci à vous. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Hop. Je regarde. D'ailleurs, le deuxième actionnaire de Thales, c'est Dassault. Ah, intéressant. Ok. Ah, t'as vu une vidéo sur Atos Localize, tu nous dis le changement de direction, le crash de la valorisation en bourse. Ah, intéressant. Bah, écoute, si t'as le lien, ah oui, non, je crois que tu peux pas le partager dans le chat. Oui, ils doivent trouver une entreprise qui a des intérêts pour l'IT, tout à fait, avec ses secteurs d'activité, ouais. Donc à voir en tout cas, il me semble qu'Edouard Philippe est administrateur d'Atos, je me trompe. Alors ça, je ne sais pas, je n'ai pas regardé quelle personnalité était aux manettes. Il parle peut-être de la vidéo sur Blast. D'accord. C'est sur Blast, nous dit Localize et GrimFR. Donc voilà, si vous êtes curieux, ah bah merci Oleg. Oleg vous a partagé la vidéo pour ceux qui veulent creuser un peu plus sur Atos. Un grand merci d'avoir partagé ça. Donc voilà, vous savez comment faire pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Et moi, je vous propose de continuer avec le sujet suivant. Le sujet suivant concerne les podcasts. Voilà, donc petite question, quel est le point commun entre l'animateur controversé Joe Rogan, l'entrepreneur Oussama Hamar, l'humoriste Tom Segura ou l'ancien présentateur de télé Conan O'Brien? Toutes ces personnalités possèdent un podcast qu'il est possible de regarder en morceaux sur TikTok, mais également en entier sur YouTube. Et donc ça, c'est une tendance assez intéressante. Ces émissions basées très souvent sur le format interview ne peuvent plus se passer aujourd'hui d'un enregistrement vidéo pour pouvoir exister sur les réseaux. D'après une étude du Times qui a été publiée par Edison Research et citée par le New York Times, 16 des 30 podcasts les plus écoutés du dernier trimestre 2023, soit plus de la moitié, étaient disponibles sous forme de vidéos filmées. Il y a 2 ans, ça ne représentait que 7 podcasts sur 30. Donc en fait, il y a un vrai changement qui s'amorce ici. Et finalement, on ne sait pas trop ce qui nourrit quoi. Est-ce que c'est finalement le fait de se reposer plus sur la vidéo qui a fait qu'ils faisaient partie des podcasts les plus écoutés? Ou est-ce qu'ils ont montré le chemin par rapport aux autres podcasts? Je pense que c'est un peu les deux. Et donc, comment expliquer un petit peu ce changement? Tout d'abord, il faut souligner que d'abord, les émissions de radio filmées, ce n'est pas nouveau. Hein. Dès les années 90, on avait les émissions d'interview comme The Howard Stern Show, qui étaient filmées et diffusées sur les chaînes câblées. En 2010, c'était au tour encore de l'animateur controversé Joe Rogan, qui est malheureusement, qu'on le veuille ou non, la plus grande star du podcast actuel, même si c'est très malheureux, de filmer ses interviews qui sont tout d'abord diffusées en live sur Justin TV. Justin TV, c'est l'ancêtre de Twitch, pour rappel, avant de passer sur YouTube en 2013. Et donc du coup, l'utilisation importante hein, de la vidéo permet de montrer les émotions, l'attitude de l'invité, créer un petit peu plus de connivence finalement. Du coup, à partir de 2023, ce qu'on voit aussi, et je pense qu'il n'est pas du tout anodin, l'algorithme de YouTube va se mettre à donner plus de visibilité aux vidéos, dépassant l'heure de contenu, ce que les podcasts finalement peuvent donner de manière régulière et facile à produire. De fait, la plateforme vidéo est devenue la première destination d'écoute des podcasts pour 28% des consommateurs, devant Spotify, qui représente 15%, et devant Apple, qui représente 12%. C'est quand même assez important et notable, parce que quand même, Spotify a quand même marqué une certaine accélération et avait semblé avoir ouvert quand même un âge d'or finalement des podcasts qui finalement est très vite retombé comme un vieux soufflé sur la difficulté de trouver un business model, d'attirer finalement les annonceurs à des prix intéressants sur ces émissions. Et finalement, le format vidéo est plus facile pour attirer les annonceurs ici. Alors que l'industrie du podcast a subi de sévères coupures quand même en 2023, que ce soit du côté de Spotify ou autre, la nouvelle stratégie est quand même porteuse pas mal d'espoir avec cette vidéo, parce que la publicité native, diffusée sous forme de vidéo, se paye quand même 60% plus cher que sous la forme audio, et ça, c'est pas négligeable quand même. La vidéo est devenue un outil indispensable aussi pour jouer sur la découvrabilité. Quand je vous disais, est-ce que les 16 podcasts les plus connus utilisent de la vidéo, c'était ceux qui utilisaient il y a quelques temps, j'ai un petit peu de mal ce matin. Il y a 2 ans, on avait 7 podcasts les plus connus sur 30 qui utilisaient la vidéo. Est-ce que finalement, c'est toujours les mêmes podcasts qui font partie du top 30 qui ont développé leur usage de la vidéo? Ou finalement, c'est d'autres podcasts qui ont grimpé les échelons grâce à la vidéo et qui font maintenant partie du top? Et je pense que c'est les deux. Je pense que c'est les deux parce que tout simplement, la découvrabilité sur les réseaux sociaux tels que TikTok, etc., ça favorise énormément, énormément la vidéo. Et donc, voilà, ces espèces de podcasts découpés en extraits de 2-3 minutes va attirer quand même ou faire parler de certains contenus vidéo ou podcasts longs, formats longs que vous pouvez retrouver ailleurs et donc de permettre de les diffuser de manière massive. Alors, l'effet de bord ici, c'est que ben, nous, on est assaillis maintenant de vidéos, de podcasts qui mettent en scène des entrepreneurs, des influenceurs qui nous parlent de leurs leçons de vie, de leurs succès, etc. Bon, est-ce qu'on n'avait pas ça déjà avant sous d'autres formes ? Oui, bon, quand on a un format qui fonctionne, en effet, il va être répété, dupliqué, décliné sous plusieurs formes. C'est pas très étonnant. On a vu cette tendance à la télé, à la radio. Pas très étonnant qu'on le voit arriver également sur Internet. Voilà. Mais en tout cas, cette tendance d'utiliser la vidéo pour les podcasts, elle est vraiment intéressante, quoi. Un podcast n'a pas vocation d'être méga court, non ? Alors ça, c'est intéressant comme question, Wendigo. Pourquoi ? Moi, généralement, les podcasts que j'écoute sont plus longs que les vidéos que je regarde. Parce que du coup, je peux les écouter en marchant, dans les transports, etc. Et j'ai moins de temps disponible pour avoir mes yeux fixés sur un écran, en fait. Non, je pense que les deux usages existent, que ce soit des podcasts moyens, courts ou longs. Pour moi, un podcast est justement fait pour être long, à mon sens. Ah oui, oui, ben moi aussi, j'ai cet usage-là. Mais là, l'article ne challenge pas du tout cet aspect que la plupart des podcasts, et d'ailleurs les émissions qui citent, enfin, je veux dire, quand tu regardes l'émission de Joe Rogan, et je ne t'encourage pas à la regarder, elle dure plus de 3 heures dans ce que j'ai vu, donc c'est très très long. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent l'émission en entier sur YouTube et ils la découpent en clips, un peu ce qu'on voit d'ailleurs sur Twitch, hein, ils la découpent en clips percutants pour les diffuser sur les réseaux sociaux et attirer les gens finalement. Voilà. Voilà la pratique. Voilà, voilà. La radio filmée est triste, j'aimais me faire des images selon les voix. Geekophone, c'est pas une notion de c'était mieux avant. Comme on le disait, la radio filmée existe depuis très, très, très longtemps. Il n'y a rien de nouveau ici. Après, c'est ton choix hein, de regarder ou d'utiliser le format audio. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je vois de plus en plus d'extraits. Alors, notamment sur Instagram ou les plateformes de vidéos courtes, où je vois de plus en plus d'extraits. Et ça marche parce que quand je suis intéressée par un bout de sketch, je vais avoir envie d'aller voir le sketch complet de la personne. Et ça m'a fait connaître certains humoristes comme ça. Voilà. Donc voilà, je pense qu'en termes de stratégie, tout simplement, les podcasts s'adaptent à ce qui fonctionne aussi pour se faire connaître et attirer leur audience, tout simplement, de manière très, très pragmatique. Voilà, je vous propose de terminer tranquillement avec le dernier article du jour. Et on avait commencé à parler de YouTube, et ben on va continuer avec YouTube. Et quelque chose qui risque pas forcément vous faire plaisir. Alors, une bonne nouvelle du côté de YouTube, c'est que YouTube a renforcé sa position de géant de la publicité en ligne durant les 3 premiers mois de l'année. Là aussi, on a eu des résultats de chiffres du premier trimestre de l'année 2024 en annonçant 8,1 milliards de dollars de revenus publicitaires. Et c'est tout simplement du jamais vu pour un premier trimestre. C'est plus 21% d'une année sur l'autre. C'est colossal quand même hein, pour YouTube. Alors, et ce résultat, en plus, ne tient pas compte des revenus tirés des abonnements. Quand je parle d'abonnements, c'est YouTube Premium, YouTube Music, YouTube TV, qui, eux, ont engrangé 15 milliards de dollars l'an dernier. Voilà. Et donc, du coup, ben, YouTube peut se frotter les mains sur leur stratégie, à savoir quand même que le chiffre d'affaires publicitaire de YouTube pèse environ 10% de l'ensemble des revenus générés par Alphabet, donc c'est pas rien quand même. Et les bonnes nouvelles pour YouTube proviennent probablement de la chasse aux bloqueurs de pub, une politique que l'entreprise n'a cessé de renforcer ces derniers mois, qui pousse donc les internets les internautes soit à désactiver leur bloqueur, soit à souscrire à un abonnement payant. Voilà. Et donc, du coup, dans cette politique de toujours permettre de déployer plus de formats publicitaires et d'augmenter les revenus publicitaires finalement sur la plateforme, YouTube est en train d'explorer, d'afficher de la publicité lorsque l'utilisateur met la lecture sur pause. La pub apparaît avec l'appui sur le bouton pause à côté de la vidéo qui est transformée du coup en vignette à côté. Et donc un premier test a été lancé sur les télés connectés. Ça a été réalisé et manifestement, les résultats sont encourageants. Alors, ce qui est intéressant, c'est le lieu où ils ont choisi de tester. La pub à la télé, quand on met sur pause, c'est pas... Enfin, pour moi, je trouve que c'est très intelligent. Je dis pas que je suis contente, hein. Mais d'un point de vue stratégie d'expérience, c'est très intelligent d'avoir commencé avec la télé. Parce que où est-ce qu'on a le plus l'habitude de voir des pubs? Eh bien, c'est quand même à la télé, qu'on les apprécie ou pas, vendus. je rappelle que je ne travaille pas pour une société qui fait ses revenus sur la pub. Donc non, j'ai pu travailler dans le passé, puisque j'ai bossé chez Dailymotion. Justement, c'était assez pénible. C'était pas la partie que je préférais, disons. Mais c'est quand même assez intéressant, la plateforme qu'ils ont choisie pour justement faire ce test de quand je mets sur pause, je vais avoir de la pub. Je trouve ça malin. Je ne trouve pas ça très intéressant d'un point de vue annonceur, parce que généralement, quand je mets sur pause, c'est que je vais faire autre chose. Je vais chercher un truc, je ne suis plus dans la pièce, etc. Donc, je ne vais pas forcément voir la pub. Mais bon, si ça rend YouTube content... Voilà, et les annonceurs, très bien. Mais je trouve ça très malin parce qu'en effet, ça ne va pas bousculer les habitudes. Je pense que ça sera un peu plus risqué quand tu mets pause sur un smartphone. Je pense que le smartphone, c'est un peu plus compliqué. Ou sur Internet, parce qu'en fait, tu veux potentiellement arrêter le son, en fait. Et donc, du coup, si la pub a du son, ben c'est pénible. Enfin... Voilà, donc les intentions ne sont pas forcément les mêmes en fonction des plateformes où on est. Ça peut être super intéressant à étudier, analyser. Je fais de la spéculation ici, hein. Je fais des hypothèses sur ça. Mais c'est ce à quoi je réfléchissais quand j'ai lu la news. Pourquoi ils ont choisi la télé et j'ai fait « Ah ouais !» En gros, ma réaction quand j'ai lu l'article, j'ai fait « Ah, ils abusent quand même YouTube !» Et quand j'ai vu où est-ce qu'ils avaient commencé à faire le test, j'ai fait « Ah non, mais c'est malin !» C'est malin, s'il y a un endroit où je serais moins choquée de voir de la pub, à ce moment-là, c'est la télé. Donc c'est là où je vous dis que, finalement, en réfléchissant un petit peu aux usages, c'est quand même assez intelligent de la part de YouTube. Voilà, je regarde un peu vos commentaires dans la chatroom. Est-ce que vous êtes outrés? Ou est-ce que comme moi vous êtes ah ouais bon à la télé on peut changer de chaîne, ouais, oui, mais bon, tu veux peut-être, enfin, si tu mets sur pause, c'est que tu veux pas forcément perdre le programme que tu étais en train de regarder. Et il n'y a pas de bloqueur de pub aussi sur la télé, ouais, merci pour la précision Saïd Sed, merci. Imagine un jour, ils se mettent d'accord et la pub te suit d'une chaîne à l'autre. Le cauchemar de l'ec. Et ben voilà, Xafarix, c'est ce que je disais. Des fois, tu mets en pause pour ne plus avoir de son. Donc, pas où sur smartphone, c'est ce que je disais. Je pense que ça sera perçu différemment, en effet, en fonction de la plateforme. Voilà. Donc, à voir. Je ne sais pas encore si vous allez avoir le test sur YouTube, sur la télé. Mais allez-y. Est-ce que moi... Non, moi, je ne l'ai pas encore eu. Parce qu'on fait souvent ça. On regarde souvent YouTube sur la télé du salon. Et jusqu'ici, je n'ai pas eu de pub qui se déclenchait au moment où on mettait pause sur la vidéo qu'on était en train de regarder. Mais je vous dirai si à un moment donné, je vois ça. Voilà. Oleg qui déclare son amour au bloqueur de pub. J'étais sûre qu'en terminant par cette news, ça allait faire parler. Pour l'instant, il n'y a qu'à voir sur Amazon Prime, tu payes et tu as tout de même de la pub. Ouais, j'avoue que, ouais, mais c'est pareil sur Canal+, hein. Moi, j'étais la première à râler aussi sur Canal+. On voit bien que les modèles d'abonnement de ces plateformes vidéo, on est loin de l'ère royale de streaming et de production de programmes, etc., où les plateformes étaient à la course à engranger le nombre d'utilisateurs et d'abonnés. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, ils ont tous réduit leur production de programmes originaux. Ils ont également tous augmenté leur prix d'abonnement et beaucoup explorent de ramener des pubs. Et si ce n'est pas des pubs genre de lessive, c'est des pubs pour d'autres programmes sur la même plateforme. C'est-à-dire quand je vois Apple TV, par exemple, vous avez des pubs sur leur propre programme maison. Voilà. Donc, il y a de la pub sur leur plateforme. Donc finalement, on voit que ce n'était pas un business model pérenne avec lequel ils s'étaient lancés. Et c'est un peu fini l'âge d'or, finalement, de l'arrivée de ces plateformes de streaming, quoi. Donc à voir. Et c'est sûr que ça se fait dans la douleur pour les abonnés. Ça, j'en suis consciente. Mais du coup, c'est toujours un équilibre à trouver. Jusqu'où vous allez accepter finalement de payer pour vous débarrasser de la pub, et jusqu'où finalement la pub devient acceptable, mais vous n'avez pas envie de payer plus. Et finalement, l'inconvénient de la pub n'est pas supérieur au bénéfice d'avoir accès à certains programmes. C'est tout un équilibre à trouver pour ce type de plateforme, finalement, qui essaye de trouver leur business model et leur équilibre financier. Et j'essaye pas de les excuser ou quoi que ce soit, hein. C'est juste une réalité économique. Donc voilà. Et au ciné, oui, au ciné, vous voyez, vous payez, mais vous avez la pub aussi. Voilà. Bon, sur ce, il est 9h16. J'espère que l'émission vous a plu. En tout cas, moi, c'était un plaisir de vous retrouver ce matin. On va regarder un petit peu qui est en ligne pour voir vers qui on peut faire un petit raid ce matin. Hop, tout simplement, pour pas vous laisser en plan quand même. Ta ta ta. Je regarde, on va aller du côté de Board Games, de Un Monde de Jeux. Tiens, ça va être sympa. Il y a du monde en plus, ça peut être très sympa. Donc, on va aller rendre visite à Un Monde de Jeux. Moi, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous retrouve mardi prochain, parce que moi, ça tombe bien, mes mugs tombent entre les jours fériés. Donc, il n'y a pas de souci, je serai là mardi prochain pour vous faire l'émission Le Mug. N'oubliez pas. Et je vous souhaite d'ici là une excellente semaine. Retrouvez aussi Jérôme dès jeudi cette semaine pour le mug à 8h, jeudi et vendredi. Très bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao, ciao!